Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Face à face Maroc-Espagne en ce moment lors des huitièmes de finale du mondial de football, les Lions de l'Atlas sont les derniers représentants du continent africain lors de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar et le score est 2-0-0 à la 73e minute de jeu. Le gouvernement présente ce mardi soir les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration avant un débat sans vote à l'Assemblée nationale. Regard dans votre édition sur la politique européenne de l'immigration. Nous écouterons l'ex-directeur général de France Terre d'Asile, président de France Fraternité, Pierre Henry. Le campement de migrants installé depuis plusieurs mois près du centre-ville de Strasbourg a été évacué ce matin. Salah Hamouri ne doit pas être expulsé, il doit pouvoir exercer l'ensemble de ses droits et mener une vie normale à Jérusalem, sa ville de naissance et de résidence. Un appel de la diplomatie française alors que l'avocat franco-palestinien devait être expulsé dimanche vers la France. La séance publique annuelle de l'Académie française a distingué jeudi dernier les lauréats des prix littéraires de l'année 2022. Parmi ces lauréats figurent L'Orient le Jour, ce dont se réjouit Eli Masbounji, directeur de la publication de Trilogue News, président d'honneur de l'Association de la presse étrangère. Il a longtemps collaboré pour L'Orient le Jour et il sera l'un de nos invités. Le mondial de football, le Maroc et l'Espagne jouent en ce moment en huitième de finale. Le score est de 0-0 à la 74e minute de jeu. Objectif bien entendu décrocher un ticket pour les quarts de finale lors de cette compétition qui a déjà réservé beaucoup de surprises. Les Lions de l'Atlas sont la dernière équipe africaine en lice lors de ce mondial. Le Maroc qui dispute une huitième de finale dans un mondial pour la première fois depuis 1986. Autre rencontre ce mardi, Suisse-Portugal à 20h et là aussi pour une place en quart de finale. Expulsion, régularisation, asile, le gouvernement français présente ce mardi soir les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration. L'exécutif veut notamment engager une réforme structurelle à tous les stades de la demande d'asile, une présentation avant un débat sans vote à l'Assemblée nationale. Regard sur la politique européenne de l'immigration, les ministres de l'Intérieur des 27 pays de l'Union européenne se sont réunis le 25 novembre dernier à Bruxelles. Un plan d'action d'urgence a été présenté par la Commission européenne. Il propose 20 mesures, notamment pour renforcer la coopération avec des pays tiers comme la Tunisie, la Libye ou l'Égypte. Nous y revenons avec l'ancien président de France Terre d'Asile, le président de France Fraternité, Pierre Henry.
On sent bien à travers les conclusions de ce sommet des ministres de l'Intérieur que finalement... Les États membres ne sont d'accord sur pas grand-chose. La question de la relation entre la France et l'Italie reste extrêmement conflictuelle. Le ministre Gérald Darmanin a confirmé que c'était à l'Italie d'accueillir les bateaux chargés de naufragés dans des ports sûrs et qu'à cette seule condition, il s'engager à relocaliser un certain nombre de personnes arrivées en Italie. Et je rappelle que pour 2022, normalement, il y avait de prévu l'accueil de 3500 personnes en provenance d'Italie. Nous en avons reçu moins de 50. Donc le torchon brûle toujours entre les deux pays sur cette question. Et puis le reste des conclusions du sommet, c'est une collection de vœux pieux, disant qu'il fallait un plan d'action pour la Méditerranée centrale, qu'il fallait prévenir évidemment les migrations au point de départ dans les pays d'origine et qu'il fallait également que les pays d'origine acceptent de reprendre leurs ressortissants dès lors qu'ils étaient en situation irrégulière sur le territoire de l'Union. Très sincèrement, il n'y a véritablement rien de nouveau. Alors, il va y avoir une rencontre des chefs d'État. Peut-être que ce sommet-là permettra d'aboutir plus sûrement. Mais pour l'instant, l'Union européenne est comme d'habitude divisée sur ce sujet de l'immigration et quelque peu tétanisé par la montée des populismes en son sein. Donc voilà, j'ai envie de dire rendez-vous au prochain sommet, parce que vraiment, celui-là ne nous permet pas d'y voir beaucoup plus clair.
Et justement, cette faible cohésion au sein de l'Union européenne, vous avez le sentiment que c'est un élément qui se renforce avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement en Italie, après le départ également de la chancelière allemande Angela Merkel?
Il est clair que le retour de l'extrême droite au pouvoir et en force en Italie, parce que je rappelle que Matteo Salvini était déjà ministre de l'Intérieur en 2018, n'arrange rien dans une Europe qui est aujourd'hui travaillée, oui, par un certain nombre de courants populistes. Je rappelle que le groupe de Visegrad, c'est-à-dire les pays nouveaux entrants à l'est de l'Europe, sont très opposés sur les questions migratoires. Et puis, je rappelle que nous sommes dans une nouvelle crise, on n'en parle pas beaucoup, mais l'Europe a accueilli près de 5 millions de réfugiés en provenance de l'Ukraine. Et donc, tout ça fait qu'il y a des tensions énormes à l'intérieur des pays et qui demandent une gouvernance extrêmement fine sur ces questions migratoires. Il faut avoir en tête qu'au moment où je vous parle, depuis, par exemple, la fin février, l'Allemagne a accueilli plus de 900 000 Ukrainiens. La ville de Berlin, à elle seule, a accueilli plus de réfugiés en provenance d'Ukraine que la France. Et donc, nous sommes dans cette situation extrêmement tendue où, de l'autre côté, il y a toujours des départs dans la Méditerranée centrale avec des gens qui prennent une route extrêmement meurtrière, que nous devons également accueillir, et que tout cela se fait dans un certain désordre. Donc vous avez une règle de l'unanimité dans l'Union européenne qui prévaut, et c'est sans doute pas cette règle qui permet d'avancer. Moi, je suis favorable à des logiques de majorité ou des logiques de projet où, par exemple, les principaux pays d'accueil, je rappelle qu'il y a 8 pays qui accueillent 80% des migrations en Europe, parmi lesquels l'Allemagne, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, par exemple. Eh bien, tant que ces pays-là ne se mettront pas d'accord sur un programme commun, par exemple de reconnaissance mutuelle des décisions d'asile, mais également de répartition, nous n'aboutirons pas à grand-chose. Donc il faut remettre sur l'établi le travail, et puis se dire que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de se partager la tâche devant une problématique qui est là, qui est présente et qui ne menacera nos sociétés que si on n'a pas les politiques adéquates pour y répondre et si on persiste dans la division.
Et lorsque l'on vous écoute, l'on comprend qu'il manque une figure qui ferait office de leadership en Europe aujourd'hui.
C'est très difficile. Chaque pays est tourné vers sa propre problématique. Vous voyez bien que, par exemple, au sein du couple franco-allemand, aujourd'hui, il y a de la tension parce que l'Allemagne est préoccupée par sa propre situation intérieure, par sa dépendance énergétique, par la proximité géographique avec le conflit en Ukraine, qui fait qu'elle a aujourd'hui d'autres priorités, et chaque pays est effectivement marqué par un certain nombre de tensions dans une Europe qui cherche sa voie aujourd'hui et qui est soumise à des difficultés en matière de souveraineté énergétique, de souveraineté alimentaire, et qui connaît une inflation que l'on n'avait pas observée depuis le siècle dernier. Nous sommes dans ce moment où, à la croisée des chemins, nous avons besoin de plus d'Europe, mais nous avons aussi besoin d'un véritable leadership, de projet pour l'Europe. Et la question se pose toujours de savoir si c'est à 27 que l'on réussit à avancer. Donc, voilà, peut-être qu'une réforme de l'Union européenne sur la méthode de gouvernance serait la bienvenue et nécessaire et urgente.
L'ancien président de France Terre d'Asile, le président de France Fraternité, Pierre Henry. Le campement de migrants installé depuis plusieurs mois près du centre de Strasbourg a été évacué. L'opération s'est déroulée dans le calme. Aujourd'hui, 45 personnes ont été mises à l'abri dans un gymnase situé depuis fin mai place de l'Étoile. Ce campement a compté jusqu'à 200 personnes, pour beaucoup venues de Géorgie, d'Albanie et de Macédoine. Salah Hamouri ne doit pas être expulsé. Il doit pouvoir exercer l'ensemble de ses droits et mener une vie normale à Jérusalem, sa ville de naissance et de résidence. Il dispose d'un simple permis de résident à Jérusalem, ville où il est né d'un père palestinien et d'une mère française. Cet appel de la diplomatie française intervient alors que l'avocat franco-palestinien devait être expulsé dimanche vers la France. Paris souligne que des démarches ont été menées encore tout récemment auprès du gouvernement israélien pour rappeler son opposition à cette expulsion. Un attentat s'est produit ce mardi en Afghanistan. Au moins 7 personnes ont été tuées, 6 blessées à Mazar-i-Sharif, dans le nord du pays. Une bombe a explosé près d'un bus qui transportait des employés d'une compagnie pétrolière. Le groupe État islamique a utilisé des armes chimiques à l'époque de son califat autoproclamé. C'était entre 2014 et 2019, dans une vaste région à cheval sur l'Irak et la Syrie. Des experts des Nations Unies ont mis à jour des preuves de l'utilisation de ce type d'armes. La séance publique annuelle de l'Académie française a distingué jeudi dernier les lauréats des prix littéraires de l'année 2022. Parmi ces lauréats figurent L'Orient le Jour, le journal libanais qui a reçu la grande médaille de la francophonie, ce dont se réjouit Elie Masbounji, directeur de la publication de Trilogue News, président d'honneur de l'Association de la presse étrangère. Il a longtemps collaboré pour L'Orient le Jour. Elie Masbounji.
Un journal francophone qui a presque 100 ans et qui est aujourd'hui le seul quotidien de langue française de la région, sauf un journal en Égypte, et puis qui a passé toute la période de la guerre civile et toutes les guerres d'ailleurs, à paraître régulièrement tous les jours, avec toutes les pertes et tous les sacrifices et toutes les victimes de certains membres de l'équipe. Et il était, je dirais, temps que L'Orient le Jour soit à l'honneur. C'est le seul quotidien de langue française qui rapporte tous les jours, et c'était là les instructions de son fondateur Georges Nakache. J'y ai collaboré entre 1976 et 1982, donc en pleine guerre, sous les bombes, la peur au ventre, avec le risque d'être kidnappé ou d'être atteint par une balle perdue. Ça a été le cas de notre rédacteur en chef, Edouard Saab, qui était également correspondant du Monde. Il a été tué par une balle, un sniper, sur la ligne entre les deux parties de Beyrouth. C'est dire le prix que les journalistes d'Orient le Jour, les fondateurs, les actionnaires ont tenu et ont continué à financer et à faire face à leurs obligations, alors que d'autres journaux fermaient l'un après l'autre. Cet hommage à L'Orient le Jour, à mon avis, est mérité, et il faut espérer que notre journal poursuive sa mission.
Vous l'avez souligné, longtemps collaboré pour L'Orient le Jour. Est-ce que vous pouvez nous faire part d'événements marquants?
Je dirais tout simplement que le Liban étant divisé en deux parties, le camp palestino-progressiste, donc les partis progressistes, et les Palestiniens armés qui occupaient la moitié de Beyrouth, en tout cas, plus les camps. Et de l'autre côté, les forces libanaises, les milices qu'on appelait chrétiennes, mais qui sont des milices libanaises. D'entre ces deux parties, on a su naviguer, si je peux dire, au point où chacune des deux nous accusait d'être les suppôts de l'autre. Et tant que c'était des accusations venant des deux côtés, on avait la certitude qu'on était sur la bonne voie. Et dès que l'une des deux parties ne nous accusait plus, on était un peu inquiet et on essayait de corriger le tir. Les moments les plus difficiles de cette guerre civile, ça a été l'occupation syrienne, bien entendu. Et on a même, Amin Abou Khaled, l'ancien directeur, et moi-même avons fait un aller-retour à Damas, voir le ministre d'Information, un journaliste lui-même d'ailleurs, qui nous a donné les lignes rouges, si vous voulez, en disant si vous parlez de ça, on ne réagira pas. Si vous parlez, mais il ne faut pas parler des relations entre la Syrie et l'Irak. C'était la guerre à mort des deux bases, des deux parties bases. Et ensuite, on n'est pas beaucoup que vous parliez du régime alaouite. Or, à partir de ce moment-là, on savait, nous, on n'avait pas, mais il arrivait dans des informations que ces termes soient cités. Mais à partir de là, nous savions au moins ce qui pourrait nous valoir une balle ou le dynamitage de la maison. Nous étions à l'époque dans le même immeuble qu'en Nahar. En Nahar avait aussi reçu les lignes rouges, si vous voulez. Donc, voilà, et des moments importants. Personnellement, j'ai participé avec la délégation libanaise officielle pour parler de paix avec Israël. C'était une expérience avec des accords qui ont échoué d'ailleurs, qui n'ont jamais été appliqués, mais c'était une expérience unique. Plus d'autres expériences, comment on faisait pour libérer les otages qui étaient faits à l'ouest, donc du mauvais côté de la ligne de démarcation où nous avions nos locaux. Et quand on enlevait les jeunes de la région chrétienne, on procédait au contact nécessaire pour les libérer. À l'époque, le regretter était déjà, quand il était encore à Beyrouth, il était champion, puisque selon la région où le jeune chrétien était enlevé, il retrouvait le chef des kidnappeurs, si vous voulez, et il l'appelait. Et malheureusement, souvent, avant d'intervenir, et quand l'intervention ou d'autres personnalités était trop forte, les kidnappeurs tuaient l'otage avant de recevoir les pressions ou les représailles qu'ils risquaient. C'est des moments vraiment. Donc, je vais peut-être un jour écrire un livre sur cette période-là.
Elie Mazbounji, directeur de la publication de Trilogue News, président d'honneur de l'Association de la presse étrangère. Il a donc longtemps collaboré pour L'Orient le Jour en tant que correspondant à Paris. Quelle sera l'ampleur de la hausse du prix du pass Navigo en Île-de-France et du ticket de métro? Le gouvernement se dit prêt à aider la région pour éviter une hausse brutale du prix. Cela alors que se tiendra ce mercredi le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité qui doit voter le budget 2023 et donc fixer les tarifs pour l'an prochain. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient, l'invité de Pluriel à 19h et 23h, et le député des Yvelines, Benjamin Lucas, membre du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, membre de Génération, émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.